Merci beaucoup, monsieur le professeur. Donc nous allons nous éloigner un petit peu de la boulée pour nous concentrer sur l'objet de son étude et l'actualité de l'objet de son étude, c'est-à-dire la démocratie américaine et le droit comparé, avec ce qui sera peut-être moins un débat qu'un dialogue, compte tenu de nos contraintes horaires, entre Viviane Curran, qui est à ma gauche, qui est professeure à l'Université de Pittsburgh, dont vous allez pouvoir apprécier dans un instant non seulement la science juridique, mais la qualité du français, qui est doublée d'une très grande connaissance de la poésie française. Je ne sais pas si elle émaillera aujourd'hui son propos de citation, mais elle connaît plus de citations de poèmes français que je n'en connais moi-même. Et à ma droite, Bénédicte Fauvarc-Causson, qui est professeure à l'Université de Paris 2, et que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui, puisqu'elle est secrétaire générale de la Société de législation comparée. Donc nous avons à la fois le président et la secrétaire générale, et qui, comme ça vous a été rappelé à plusieurs reprises, a été fondée par Édouard Laboulaye. Donc je donne tout de suite la parole à Viviane Curran.
Merci, Monsieur le Président. Je tiens aussi à remercier ma très chère collègue Mireille Delmas-Marty pour cette précieuse invitation de pouvoir participer à la célébration du bicentenaire de la vie et de l'œuvre d'Édouard Laboulaye, et aussi à la parution de la traduction française du livre du juge Breyer. Et aussi, je remercie Jean-Louis Alperin de ses propos très éclaircissants sur Laboulaye. En fait, ils me font penser au livre de la linguiste Henriette Walter, intitulé « On y soit qui mal y pense, l'incroyable histoire d'amour entre le français et l'anglais ». Car si incroyable histoire d'amour il y a, il me semble que c'est entre le droit français et le droit américain. Car ces deux pays se sont vraiment abreuvés aux sources juridiques l'un et l'autre. En fait, si on remonte plus loin que Laboulaye, nous savons que les pères fondateurs américains s'inspirent des philosophes tels Montesquieu et Rousseau, mais ce qui est un peu moins bien connu, surtout aux États-Unis, c'est que les révolutionnaires français tels Condorcet et Brissot s'inspirent à leur tour de ce qui se passe dans le nouveau pays, ou du moins de l'idée qu'ils s'en créent, quoique ce soit une idée pour la plupart si peu fidèle à la réalité que Jefferson s'en inquiétera beaucoup de la fausse idée de son pays que commence à avoir la France, et il s'emportera contre Condorcet dans une lettre qu'il écrira à Madison à propos de Condorcet, et il fera de son mieux dans ses propres écrits en France pour corriger les erreurs de Condorcet et d'autres, Crèvecœur et d'autres, mais sans grand succès. Mais le thème que j'ai à aborder avec vous, en fait, comme Monsieur le Président l'a indiqué, c'est le droit comparé et la démocratie américaine. Et ce sujet est tellement vaste que ce que j'ai l'intention de faire est simplement d'en signaler quelques temps forts. Tout d'abord, qui parle de droit comparé parle d'acte de comparaison. Or, l'acte de comparaison est développé de manière extrêmement pointue dans les systèmes de droit commun en ce qui concerne la comparaison par analogie, la comparaison analogique, c'est-à-dire entre faits et questions juridiques de l'affaire pendante avec ceux de la multitude de précédents estimés être pertinents à l'affaire pendante. Mais ce que nous entendons dire normalement par le droit comparé est un domaine très jeune aux États-Unis, qui fleurit surtout avec l'infusion des émigrés de l'Allemagne nazie et de l'Europe occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Or, le premier cours de droit comparé qui est offert aux États-Unis est la création du juriste germano-américain Rudolf Schlesinger, et lui-même a une double formation. Il avait pratiqué le droit en Allemagne jusqu'en 1939, c'est-à-dire très tard en Allemagne. Et après, il vient aux États-Unis en 39, novembre 39. Il fait ses études de droit à nouveau à Columbia. Après avoir reçu son diplôme, il pratique le droit aux États-Unis. Et donc, il comprend, pour ainsi dire, de l'intérieur les deux systèmes de droit, le droit civil, le droit commun. Et il devient, en quelque sorte, un comparatiste malgré lui. Et il aura plus tard un don tout particulier quand il deviendra un professeur de droit comparé. Et ce sera plus ou moins la même chose pour la plupart des grands comparatistes américains et britanniques, quasiment tous issus de l'émigration. Et un livre est paru récemment à l'égard de ces comparatistes en Grande-Bretagne, intitulé « Les juristes déracinés ». C'est un livre qui a été dirigé par Sir Jack Bateson et le comparatiste allemand Reinhard Zimmermann. À l'époque où cette génération commence à disparaître, c'est-à-dire, je dirais, environ une vingtaine d'années, la profession passe par une certaine crise. Elle se demande s'il sera possible de continuer sans la balise de ces émigrés. Mais elle subit aussi un certain sens de marginalisation, et je crois que ce sens-là ne provient pas complètement du fait qu'elle est en train de perdre les émigrés. Dans les années qui se sont écoulées depuis, plusieurs choses intéressantes se sont intervenues. D'abord, dans les cercles académiques, le rôle du droit international et comparé devient de plus en plus reconnu comme primordial pour la formation des juristes. Et de lors, on voit une augmentation significative d'une nouvelle génération de professeurs de partout dans le monde qui se joint aux facultés de droit aux États-Unis. Je dirais que dans ce processus, le droit comparé devient et se veut un peu moins eurocentrique. Et bien sûr, l'Internet changera complètement la donne, en offrant un accès inédit à la commande des livres de droit qui paraissent à l'étranger et un accès immédiat aux informations sur les lois et les décisions juridiques étrangères. Et pour ceux d'entre nous qui sommes d'un certain âge, nous savons que le courrier électronique crée une véritable révolution dans la facilité de la communication transnationale entre collègues. Alors, c'est le véritable paradis terrestre pour le comparatiste. Et pourtant, si l'on examine les numéros de la revue américaine de droit comparé dans les dernières années, on s'aperçoit que la crise a évolué, mais que le droit comparé ne semble pas s'en être tout à fait sorti. Il y a quelques années, quand la Banque nationale préconise le système de droit commun comme étant un élément fondamental à la prospérité économique pour les pays emprunteurs et qu'elle étale dans son rapport une analyse juridique comparatiste, les comparatistes américains, pour la plupart ahuris, s'interrogent sur le peu d'influence qu'ils peuvent avoir sur la société qui les entoure. Et dès lors sera consacrée à ce sujet-là une grande réunion de la section droit comparé de l'Association américaine des facultés de droit et un numéro spécial dans la revue américaine de droit comparé. Mais et nous en venons à la question qui importe par rapport à la démocratie américaine. Qui lit ces articles? Quel est le véritable rôle du droit comparé aux États-Unis? D'abord, le droit américain n'est pas un droit balisé par les universitaires. Et dès lors, l'universitaire aux États-Unis n'écrit normalement pas pour le juge. Il s'adresse normalement à ses collègues. Et qui plus est, en écrivant leur mémoire au juge, les avocats qui s'adressent aux tribunaux au niveau des 50 États hésiteront beaucoup à citer des articles académiques, de peur de sembler ne pas avoir de droit à citer, c'est-à-dire des précédents qui soutiennent le résultat qu'ils préconisent. Un juge britannique éminent qui a écrit un chapitre à l'honneur des réfugiés britanniques dans ce livre que je viens d'évoquer, s'intitule Les juristes déracinés en Grande-Bretagne, a tenu à dire qu'en Grande-Bretagne, ce n'est que grâce à la génération d'émigrés que les juges anglais ont pris au sérieux les écrits des universitaires, parce que ces écrits étaient les premiers qui leur étaient de véritable utilité. Il me semble que l'explication n'est pas que ce fut de plus grands érudits, mais plutôt que l'autocompréhension de ces émigrés issus de l'Allemagne et de l'Autriche, de leur rôle professionnel en tant qu'universitaires, à l'opposé de leurs collègues nés en Grande-Bretagne, était de faire une contribution très pragmatique à leur nouveau pays. Mais, ceci dit, le juge américain se voit incontestablement obligé de plus en plus souvent de tenir compte du droit civiliste. Les affaires se multiplient à vue d'œil où la transnationalisation du commerce donne lieu au moins à un argument de la part d'une partie que le droit d'un pays civil s'applique et où le juge doit comprendre si ce droit serait assez proche du droit domestique. Quand je dis droit domestique, droit américain, je ne veux pas dire un droit national, je veux dire le droit de la New Hampshire ou du Massachusetts, bien sûr, puisqu'il s'agira pratiquement toujours du droit d'un État. Mais il va falloir que le juge sache si le droit civil dont il s'agit est assez proche pour ce droit-là, d'un de ses États, enfin de son État, pour qu'il puisse décider d'appliquer son droit domestique, ce qu'il va largement préférer. Et on observe des réactions très diverses parmi les juges. Certains font de leur mieux d'entreprendre des recherches comparatistes en ce sens qu'ils cherchent à comprendre comment un autre système juridique résoudrait tel ou tel problème. Tandis que d'autres, tels un juge très connu du deuxième circuit, un circuit très important, c'est-à-dire la cour d'appel dans le système fédéral, diront carrément dans leurs décisions juridiques qui seront publiées qu'il faut éviter aux juges américains de devoir faire du droit comparé. Pour le juge qui s'y engage, comment aura-t-il accès au droit étranger ? Eh bien, ce sera surtout par le biais des experts. Mais il faut se souvenir, dans ce contexte, que les experts aux États-Unis font partie du système accusatoire et dès lors, ils sont embauchés par les parties. Ils ne sont pas neutres, les parties n'engageant que les experts qui vont soutenir le résultat préconisé par l'avocat qui bénéficie au client. La vérité doit ressortir de la confrontation des parties opposées et, en l'occurrence, de la confrontation des experts des parties opposées. Mais le défi est grand, puisque les avocats qui sont censés éclaircir la signification de cette confrontation par le biais de la cross-examination, pour la plupart ne sauront eux-mêmes pas poser les questions pertinentes aux experts, car eux-mêmes, ils ignorent le droit de l'autre pays. Alors, comment savoir quelles questions poser aux experts ? Il existe un mouvement grandissant aujourd'hui, quoique controversé, pour élargir le rôle des experts neutres que les cours peuvent demander. Il s'agit surtout en ce moment des domaines de sciences naturelles et de technologie. Mais il y a lieu d'espérer que l'expert neutre dans le domaine du droit comparé deviendra acceptable aussi. Mais la plus grande question, me semble-t-il, de toutes pour la démocratie américaine, et le rôle encore si controversé du regard même vers l'autre, et plus précisément si ce regard risque de ternir les valeurs fondamentales américaines. Et en fait, comme l'a si bien démontré le juge Breyer pendant des débats avec le juge Scalia, la vraie controverse entre les deux perspectives actuelles n'est pas tellement grande. D'une part, le juge Scalia lui-même ancien professeur de droit comparé, craint surtout une application superficielle et par conséquent inexacte du droit civiliste. Mais d'autre part, il estime que le pays finira par donner une trop grande marge d'appréciation aux juges. Mais cette crainte-là, on la connaît peut-être bien aussi dans un pays civil où la pire des accusations est celle d'avoir un gouvernement de juges. Le revers de la médaille est qu'on ne peut pas se passer d'avoir des êtres humains fiables dans les postes judiciaires. Pour accepter que le regard vers l'autre puisse être d'un apport positif, il faudra pouvoir se fier au juge comme interprète. Or, le besoin de bons juges révèle une fragilité, une dépendance qui donne lieu à la crainte. Mais nul système ne peut surmonter ou contourner la dynamique d'interdépendance mutuelle entre les institutions de la société et les êtres humains qui les peuplent, qui les habitent. Cet aperçu qu'aborde le juge Breyer dans ses débats a été, me semble-t-il, une des plus grandes contributions aussi en Allemagne de la Freie Schule de Kantorowicz et Ehrlich et Radbruch et en France de l'École de la libre recherche de Saleil et Génie. Or, un des défis que relève la mondialisation à la démocratie américaine s'avère être aussi un défi à la génération actuelle de comparatistes, notamment savoir pénétrer dans cet espace blanc qu'est la juste marge d'appréciation des juges pour bien traduire, car c'est là notre fonction, c'est la traduction. Mais pour nous qui vivons cette incroyable histoire d'amour qu'a vécu Laboulaye et tant d'autres entre la France et l'Amérique, quelle joie que de connaître ce défi qui est aussi la plus belle des opportunités qui soit pour le droit comparé face à la démocratie américaine, à la fois chevronnée, mais aussi bien pour ce qui est du regard vers l'autre, encore jeune comme à l'époque de Laboulaye.